Оцармиц. أشداني مهزار بنادي وبقيت وبقيت في الرادي في الرادي وعاونيني برضا عاونيني برضاك يا الحنينة راني نترجاك راني نترجاك راني نترجاك يا لمي من حنينا أجرتني وماليا وترميت في بلاد سنة بلا فايدة ويا لمي ما بلا فايدة ويا لحنينا
Patchworld sur les ondes de Radio Canu 102.2. On est toujours dans la poésie de Fabien Drouet. Alors vous pouvez le trouver sur Facebook, tu me disais, et peut-être bientôt sur un blog.
Oui, alors pour l'instant c'est sur Facebook. Facebook Fabien Drouet. Fabien Michel Chabuet Drouet. Je sais pas pourquoi j'ai mis ça, mais.
D-R-O-U-E-T.
Ouais, c'est ça. D-R-O-U-E-T, Fabien, F-A-B-I-E-N. Voilà, vous avez eu le temps de l'écrire.
Et évidemment. Puis, tu m'as dit qu'on trouve ton premier recueil dans une librairie à Lyon.
Voilà, mon premier recueil, vous le trouvez chez moi, dans un tiroir, mais aussi au Livre en Pente, que pas mal connaissent, hein, je suppose. Voilà, la super librairie rue des Pierres Plantées, si je dis pas de conneries. En haut de la montée de la Grande Côte, ouais.
Dans les pentes de la Croix-Rousse.
Ouais, voilà.
Avant d'arriver sur le plateau.
C'est ça.
Et puis, tu vas créer un blog bientôt.
Et bientôt, je vais créer un blog pour. Alors que c'est pas pour moi en tant qu'auteur, c'est pour les éditions La Terrasse. C'est un truc que je suis en train de faire. Pour. Donc voilà, j'ai monté un appartement d'édition. Enfin voilà, il s'est monté tout seul avec mes envies finalement, puisque j'ai publié un recueil, je l'ai édité. J'ai publié une revue avec plein de poètes, donc j'ai édité. Donc en fait, l'appartement d'édition existait avant que j'y pense. Mais donc je vais faire un blog avec ça, puis tant qu'à faire, je vais pas cracher sur le fait de me faire un peu de, enfin de me mettre dedans, vu que les éditions La Terrasse ont édité Fabien Drouet qui est moi-même. Voilà, je vais me mettre à la même enseigne que les autres, c'est-à-dire essayer de montrer le plus possible ce qu'on fait. Essayer aussi que la poésie atteigne des gens qui connaissent pas forcément, qui ont une vision des fois un peu poussiéreuse comme je pouvais y avoir, comme je pouvais l'avoir il y a moins d'un an. Puis voilà, et après, et donc voilà, pour l'instant c'est Facebook, hein. C'est comme ça. Facebook, Fabien Drouet, blabla. Voilà.
On disait aussi pendant la musique, on parlait des respirations. On disait des fois, par exemple, sur la lecture que tu viens de faire du dernier poème, tu mets des points, tu fais des soies à la ligne, on fait des silences comme on ferait des pauses et des soupirs en musique.
Ouais, bah c'est. En fait, je m'en rends compte. En fait, c'est toi qui viens de me montrer ça. Mais ça rejoint un peu ce qu'on disait tout à l'heure. Je crois que je raisonne dans ma tête, mais à l'oral en fait. Et je crois qu'en fait dans ma vie c'est pas mal comme ça. Je ne sais pas comment ça fonctionne chez les autres, même si j'ai pu en parler. Je suis à l'intérieur de personne, mais souvent je réfléchis à haute voix dans ma tête. Donc voilà, il y en a peut-être qui mettent des mots. Moi, je mets des mots, mais à l'oral. Et du coup, oui, les points, c'est une indication au lecteur, le premier lecteur étant moi, une indication de respiration, de pause. Ça peut être une indication de sens, comme toute ponctuation, mais comme tu dis, ouais, c'est un peu comme des soupirs dans la musique, ouais. Ouais, il y a vraiment de ça.
Et on a parlé aussi du rythme, qui n'est pas un souci pour toi en tant que musicien. Quelque chose que tu fais assez naturellement, et puis aussi des intonations. Tu disais au début, quand tu t'entraînais, les fins de phrases étaient un peu souvent dans, si on peut dire, l'intonation, la mélodie, les fins de phrases.
Ouais, ouais.
Sauf si c'est quelque chose de voulu, et du coup, ça c'est fait partie peut-être d'un travail d'acteur où c'est plus facile pour eux, où il faut le travailler pour changer les intonations en fin de phrase.
Il y a tout un travail.
Développer une ligne mélodique.
Oui, voilà, c'est ça. Ouais. Après, être dans le. Peut-être le. Ouais, il y a des styles après de lecture et qui correspondent à des textes. Le texte, je sais pas, le texte religieux ou le texte méditatif va être entre guillemets un peu linéaire dans sa lecture parce qu'il y a une espèce de volonté de transe et donc un aspect répétitif. Après mes textes, moi je les analyse pas, donc je sais pas comment ils doivent être lus, comment. Voilà, mais oui, comme tu dis, bah en fait c'est un travail d'acteur, hein, puis c'est en faisant les trucs qu'on se rend compte que tout ça c'est du travail en fait. Être un acteur, ça s'improvise pas. Être un mauvais acteur, ça s'improvise sûrement plus facilement. Mais voilà, être un bon chanteur, peut-être, ouais, ça s'improvise pas non plus. Y a des gens qui ont des facilités, mais mine de rien. Mine de rien, s'écouter, partager des visions avec des gens, que les autres écoutent, émettre des critiques négatives, positives, tout ça, bah finalement c'est pas des conneries, ça peut faire avancer un peu. Donc voilà. Et oui, sur la lecture, c'est clair que la poésie à la base c'est oral de toute façon, mais c'est oral, mais une fois que c'est écrit, c'est à réoraliser aussi. Donc faut se permettre aussi l'erreur. Et qui n'est pas une erreur parce que c'est juste une interprétation. Après, l'acteur, il travaille son interprétation, je pense, pour être le plus fidèle possible à son interprétation. Moi, quand je lis, des fois, j'ai l'impression que ma voix n'est pas fidèle à mon interprétation de mon propre texte. Donc, forcément, ça me pose un souci. Après, j'y vais quand même parce que si je lis pas ma poésie, y a pas grand monde qui la lit, et puis qu'il faut bien qu'elle se transmette et que j'adore ça. J'aime beaucoup lire mes textes, ceux des autres. Je prends du plaisir. Donc je me pose les questions le soir chez moi, et pendant que je lis, j'essaye de lire.
On a parlé d'un dernier aspect aussi, c'était celui du timbre de la voix. Comment on colore, comment on met du grain. Tu as dit, mais ça rejoint le poids.
Bah ouais, ça, je pense que ça rejoint le poids. C'est-à-dire que, toute façon, acteur ou pas, on joue quand on parle. Qu'on le veuille ou non, on parle au bar, on joue. Donc, le grain, quand il ne se montre pas trop forcé, parce que ça peut être aussi quelquefois très gênant dans des lectures, qui caricaturent un peu le texte. Le grain, la petite cassure de voix, voilà, ça c'est des trucs que quand on écoute quelqu'un, on n'entend pas qu'il a répété sa cassure de voix pendant des heures dans sa chambre. Et si on le savait, on trouverait que c'est un peu ridicule, mais n'empêche que cette petite cassure, ce petit dans la voix, peut-être cette gravité ou cette légèreté, cette musique dans l'énonciation, c'est un travail. Et finalement, je me rends compte, et je contredis totalement la personne que j'étais il y a un an, que travailler son jeu d'acteur, c'est vraiment pour de vrai travailler sa sincérité et la sincérité de son interprétation. Ouais, je trouvais que c'était des grands mots, des trucs un peu prise de tête et tout ça, mais en fait, en les vivant un peu, je me rends compte que ces mots sont pas creux. Et voilà, et je suis content d'apprendre des trucs, et j'en ai encore plein à apprendre.
On va faire une petite respiration musicale, peut-être tu avais proposé de lire un poème, c'est toi, mais qui n'est pas de toi.
Oui, alors c'est pour tenter de m'en montrer collectif dans tout cet égocentrisme. Non, c'est parce que c'est un poème qui m'a fait aussi aimer la poésie, qui m'a montré que la poésie c'était pas... On n'était pas obligé de mettre la grande majuscule à poésie, qu'on pouvait l'écrire comme un autre mot, comme un autre truc qu'on fait dans sa vie. Et c'est Marc Guimau, ouais, c'est la poésie personne en lui. Mais on fera ça après, du coup, c'est ça.
Thank you.
vous écoutez le groupe Nohoy. Choses à se raconter.
Surtout Delphine, hein, moi je.
Tu balances pas, tu renseignes.
Je renseigne, j'indique.
J'étais en train de parler de mon super accent anglais et là, le ajouter ouais, l'accent lyonnais.
Voilà. Un accent. Ouais, j'avais rien à dire en fait. J'ai dit un accent, mais je.
Non, je te laisse te concentrer parce que là, le poème que tu vas nous lire n'est pas de toi, il est de Marc Guimau.
Marc Guimau, ouais.
Dans le prénom, t'as vu, hein. Je me concentre.
Dans le prénom de Marc.
Ouais.
Ouais. Mais bon, bah, c'est déjà bien si tu te trompes pas sur les prénoms des autres.
Et donc, c'est un poème qui est assez long.
Oui, il est long. Il est long, mais je l'ai lu jusqu'au bout, comme quoi il.
Donc, il faut que tu te concentres sur le travail de la lecture.
Voilà.
Et donc, c'est pour ça qu'on va venir parler des accents pendant la musique de Nohoy. Il y a aussi Pierrick dans les deux groupes. Mais là, c'est son groupe Nohoy et c'était Speak, Don't Speak.
Donc, le texte s'appelle La poésie, personne n'en lit. Et il est de Marc Guimau. La poésie, personne n'en lit. Si l'on veut ramener la poésie au grand public, si l'on veut que les gens normaux lisent de la poésie, on devrait vendre la poésie au même prix que les grands parfums, et avec le même marketing, et la même simulation érotique. Pourquoi ? Parce que vous savez que tout est une question d'image, et qu'un produit cher est fascinant même s'il est nul. Et se vend bien même s'il est nul. Le nul se vend bien si le marketing n'est pas nul. La poésie ne fait pas triper les foules, ne fait triper que dans un cercle restreint. À la limite, Baudelaire peut faire encore triper n'importe qui. Toute classe socioculturelle confondue. Vieux et jeune, étudiant ou trader, nightclubber, faillot, chômeur ou huissier, casanier ou footballeur, moderne ou pressé, lecteur ou phobique. Il n'a jamais autant fait triper durant sa vie. J'aimerais savoir si aujourd'hui il serait millionnaire. Le nombre de ventes des fleurs du mal. Et le nombre de zéros sur le chèque qu'il ne pourra jamais toucher. On devrait tout reverser aux poètes d'aujourd'hui pour soulager un peu Pôle emploi et la fonction publique. Est-ce que ce serait assez pour vivre? Pour bannir le rouge des fins de mois? Pour ne pas retourner vivre chez sa mère? Je ne sais pas, mais si on pouvait prendre exemple sur le parfum, se mettre de la poésie sur le corps, de la poésie dans le cou, de la poésie dans les phéromones, de la poésie pour plaire, pour capter, pour fasciner. Si on pouvait afficher la poésie sur des panneaux 4 mètres par 3, avec des seuils de nudité calculés. Si on faisait ça pendant 6 mois, dans tous les métros, dans toutes les rues, si on martèle le message, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de message, et qu'il ne reste plus que le messager hypnotique. Si on s'autorise des passages à la télé-réalité. Si on payait une star pour qu'elle fasse semblant de lire de la poésie. Et si elle disait qu'elle la lit vraiment sans sauter de page, même pas en diagonale. Elle dit ça, les yeux dans les yeux du public en haleine. Si on pouvait payer 90 euros, un petit recueil de poèmes, avec une couverture extraordinairement brillante. Si on faisait ça dans toutes les librairies suicidaires, alors le poète retrouverait une sexualité de masse. Sans passer par la mort. Au lieu de vivoter dans des sectes. Au lieu que les poètes soient lus par des poètes. Au lieu que des poèmes magnifiques ne soient plus édités. Au lieu que Baudelaire ait le monopole. Au lieu que je ne sois pas au courant de l'édition d'un chef-d'œuvre quelque part en France. Au lieu que certains meurent un peu poussé, avant que je n'aie pris connaissance de leur existence, certains que j'aurais voulu connaître, à qui j'aurais voulu payer une bière, comme Jean-Luc Letegna, qui ne se vendra pas 90 euros, qui ne créera pas de mouvement de foule pour se le procurer. Allez, suffit comme ça les hypothèses. Ça me plaît d'imaginer ça, et en même temps ça ne me plaît pas. C'est peut-être mieux comme ça, d'être discret, de mettre le silencieux, d'avoir un jeu de pistes. Je n'ai pas envie de faire la queue, je n'ai pas 90 euros plusieurs fois sur moi. Je ne veux pas acheter qu'un seul livre par an, je retourne ma veste. On ne se mettra pas tous Jean-Luc Letegna sur le corps. Ni dans le cou, ni dans les oreilles. La poésie a des règles sous la peau, des règles virales différentes. Une vieille nature qui fait flipper le marketing. La poésie ne sera pas affichée en dehors de son temps réglementaire et bénévole. La poésie est lue par des poètes, la poésie personne n'en lit. La poésie c'est le contraire et l'ennemi du contraire. La poésie on va la chercher, mais elle peut venir aussi toute seule. La poésie, on ne sait pas si c'est de la poésie vraie ou de la poésie fausse. La poésie c'est une botte de foin dans un champ d'aiguilles. La poésie n'est pas un parfum à 90 euros. La poésie n'aime pas le marketing. La poésie peut pisser sur Baudelaire, mais il est verni. La poésie ne rend pas normal. La poésie, c'est une mezzanine. C'est aussi une position sexuelle rare. Un virus rare. Une maladie rare. Une santé rare. Un virus lent. Mais que doit faire le virus? Que fait un virus quand il rencontre un autre virus? Ce qu'il se passe dehors ou à l'intérieur. Ce qui se passe est aussi un virus, mais un virus énorme et possessif. Alors que fait la poésie? Que doit faire la poésie? Elle transmet, elle se transmet, elle se transmet. Mais elle transmet de corps en corps, dans le privé, dans l'ultra-privé. Il n'y aura pas de millionnaire. On ne sentira pas toujours bon. Et l'image sera pixelisée, le son sans autotune. Mais celui qui n'est pas encore touché, qui statistiquement n'a aucune raison de l'être, son état peut changer. Si au lieu de se rendre quelque part, il choisissait juste de se balader. Et s'il se balade, il peut être touché. C'est déjà arrivé à d'autres avant. Il peut tomber dessus, sans tomber malade, sans devenir poète, sans que personne ne le sache, à part s'il est sociable. Une secte bonhomme le saura. C'est ça la poésie, une secte sans marketing ni trésorier. Une secte contre le sectaire, une secte pour un secte. La poésie c'est ce qu'on veut et ce qu'on ne veut pas. Surtout ce qu'on ne veut pas. Combien de lecteurs de poésie au kilomètre carré ? Baudelaire aurait dû être un site de rencontre.
Vous venez d'écouter le groupe Nohoi, ça s'écrit N-O-H-O-I, tréma. C'était le morceau 5, Fena Kystoscope. Et on enchaîne avec le groupe Zoam.
Stop. sweet dessert, my sweet dessert. This my sweet dessert, my sweet dessert. This my sweet dessert, my sweet dessert. Is my sweet dessert, my sweet. My sweet. My sweet. My sweet. My sweet.
C'est le groupe Zoam que vous entendez dans Patchworld. L'album s'appelle Landscape et c'est la voix de Clélia Montes qui a fait également le texte, qui a écrit tous les textes de l'album ainsi que les visuels. Alors je vous invite à aller voir l'album Landscape, j'aime beaucoup l'image, c'est une espèce de portrait de femme, de profil avec un paysage de sapin à l'intérieur. D'ailleurs c'est drôle parce que je suis en train de regarder aussi la pochette de Noy, c'est aussi des arbres mais cette fois en noir et blanc.
Ah oui.
Zoam est un groupe de la Loire.
Belle pochette, en tout cas.
Toi aussi, tu connais des gens qui écrivent dans la Loire, peut-être qu'ils se connaissent-ils.
Des gens qui écrivent dans la Loire.
J'ai déjà parlé de la revue Violence, ils ne sont pas de la Loire.
Non, ils sont de Saint-Étienne. Enfin, la revue Violence, il y a plein
oui,
de gens.
Oui, c'est ça, Saint-Étienne. Saint-Étienne, dans la région.
Ah oui, c'est vrai que Saint-Étienne, c'est. En effet, oui. J'avais oublié.
C'est le 42.
C'est 42, ouais.
Et tu m'as dit que tu connaissais plusieurs personnes qui écrivaient justement à Saint-Étienne dans cette revue ou ailleurs.
Et ben où en fait j'ai rencontré des gens qui ont monté cette revue, donc notamment Luna Beretta qui est devenue une copine. Et puis en fait c'est pas un texte que j'ai mis que j'ai publié sur internet. Et puis ils m'ont proposé de le mettre dans la revue, donc j'étais vraiment super content. Et c'est comme ça que j'ai découvert la revue, donc qui s'appelle Violence au pluriel, Violence avec un S à la fin. Et c'est une revue hyper bien. Enfin, que dire? C'est pas une revue de poésie, c'est une revue de texte. Donc j'ai pas envie de dire que c'est de la poésie. Sur le coup, en tout cas, c'est, je sais pas, c'est des textes qui libère un peu, qui parle de, voilà, l'auteur parle de violence au sens physique, mais pas que, bien sûr, au sens général de violence, c'est-à-dire que, enfin, je sais que j'ai lu 3 numéros, il y a des choses qui parlent de l'enfance, il y a des choses qui parlent de violence physique, il y a du racisme, il y a aussi des choses de l'ordre de l'homophobie, enfin, tout ça, c'est des violences qui sont pas à mettre dans le même sac. Mais c'est des violences. Et du coup, cette revue, je l'ai lue avec un plaisir immense. J'ai lu des choses que j'ai adorées. Astrid Toulon, son texte dégueulassé d'ailleurs, que voilà, que c'est un truc que j'ai plus qu'adoré, que j'ai relu plein de fois. Et puis, je les ai rencontrés. Donc, ouais, on fait un petit peu des trucs ensemble maintenant. Ils organisent des lectures de temps en temps, de textes qu'il y a dans Violence. Du coup, je suis super content de participer, de montrer mes textes, d'écouter des textes que j'aime beaucoup. Voilà, c'est tout un truc. C'est tout un truc bien.
Du coup, tu pars à Saint-Étienne pour les voir ou c'est tout fait par internet?
Non, alors pour ce qui est de. Alors en fait, il y a pas mal de choses qui se passent par internet. Forcément, ça a grandi un peu l'espace et vu que, je sais pas, il y a peut-être. Allez, je vais faire des grandes stats au hasard, mais il y a 5000 personnes en France qui lisent de la poésie régulièrement. Il y en a beaucoup plus qui lisent, hein, mais voilà. Bah voilà, on a grandi. Internet, ça rapproche, ouais, ça casse un peu la distance, pour le meilleur et pour le pire. Mais bon, j'essaye de prendre le meilleur. Et du coup, c'est beaucoup de gens que j'ai rencontrés par internet et que j'ai fini par rencontrer en vrai, ce qui fait quand même du bien aussi psychiquement. Donc voilà, Luna Beretta, je l'ai rencontrée parce que j'ai un texte qui a été publié dedans. Puis après, on a fait une lecture à Lyon et une lecture à Saint-Étienne de tous ces textes. J'ai découvert des groupes, voilà. Mais Violence, c'est vraiment, franchement, au moins aller se renseigner, enfin, juste regarder. Ils ont aussi, ils ont un blog, je crois, puis ils ont aussi un Facebook. Il y a des extraits et tout, c'est, franchement, c'est, en plus, la revue, elle coûte 5 euros. Enfin, je comprends pas que ça coûte 5 euros d'ailleurs. Mais bon, c'est bien du coup parce que c'est, tout le monde peut l'acheter, mais ça devrait coûter un peu plus quand même. Pas 90 euros, mais genre 8-10, ça serait largement mérité. Donc voilà.
Voilà, petite pause musicale et on continue avec une lecture d'un texte qui sera de qui
Eh ben, c'est toi qui m'as dit. Alors attends, je vais pas faire l'égocentré. Hein. Tu m'as dit. Tu relis un texte à toi.
Ah ben,
donc
parfait.
C'est un texte à moi.
Oui, parce que tu cherchais aussi un truc court que tu voulais me dire. Non, il y en aura deux du coup.
Non, alors en fait, le truc court, non, j'ai dit que je le dirais pas parce que je me permettrais pas de lire ce poème qui je trouve que je pense vraiment encore moins bien lire que les autres. Donc. Enfin, non, les autres, j'ai des super bien lus.
Bah, c'est de qui et où est-ce qu'on peut le lire alors ?
Bah, c'est alors, j'ai parlé de Luna Beretta, de la revue Violence. J'avais envie de parler aussi de Sandra Lillo, donc qui écrit des textes, voilà, des poésies courtes, on va dire, des poésies qui m'ont beaucoup touché, qui aussi touchent beaucoup de monde. D'ailleurs, je le savais pas forcément, mais voilà, elle est lue et c'est bien mérité. Sandra Lillo. Après, il y a plein de trucs que j'adore. Marc Guimau, donc c'est un texte que j'ai lu là, mais il en fait plein d'autres qui sont super. Il va bientôt, je crois, sortir un recueil. Donc voilà, Marc Guimau, Sandra Lillo. Oslo Deauville aussi. Oslo Corbeau, donc ça, c'est une émission de poésie qui s'appelle Une étoile dans la gorge, que je vous conseille et que je te conseille vraiment. C'est de la poésie sonore, c'est. Voilà, ça pète un peu les barrières de la poésie, du machin, de la littérature, la musique. Voilà, c'est de la poésie sonore, il y a de la musique, c'est plutôt rock. Il y a plein de trucs et c'est vivant, c'est un peu tout.
Tous ces auteurs, ces coups de cœur, on les trouve en lien sur ton profil Facebook.
Je mets souvent des textes. Voilà, je pense à peu près autant de textes à moi que de textes des autres. Pas de chacun, faut quand même pas exagérer, mais voilà, il y a Celle qui dit aussi sur que je lis beaucoup sur Facebook aussi, voilà, beaucoup sont sur, on est beaucoup sur Facebook parce que il y a pas, c'est un moyen de diffusion, c'est voilà, un moyen de communication, tout ça, on a tous envie de faire autrement, mais n'empêche que qu'on se parle, qu'on se lit, que vous aussi vous pouvez lire parce que les trucs Facebook sont pas fermés. À des gens qui ne sont pas inscrits. Voilà, je vais pas dire que Facebook c'est génial, mais c'est un moyen de communication, quoi.
Allez, ben on continuera avec un dernier de tes poèmes. Et puis, par contre, ce serait bien aussi qu'on finisse en musique, parce que tu es musicien aussi, donc avec peut-être un morceau d'Antidaté, si tu as ça sur ton ordinateur.
Tout à fait, j'ai tout préparé.
Continue Exoam. No one cares, no one loves, no light and no air. A place of covenant, the city of fate. For every blow, every abasement, the summer days. I'll defy people, their morality to escape. No one cares, no one loves, not our love in vain. No light and no air, no light and no air to live in. Zoam de l'album Landscape. Zoam qui est venu aussi dans Patchworld pour faire présenter ce. Ils sont venus deux fois. Et donc la très belle voix de Clélia, ils se sont des.
C'est bien. J'aime bien.
Il y en a qui sont stéphanois aussi. Hein. Et donc, c'est le morceau s'appelait Alive. Allez, on termine cette longue émission spéciale poésie. On ne savait pas jusqu'où on allait aller. Et finalement, on a bien fait jusqu'à 17h. C'est Fabien Drouet qui nous parle de ses poèmes, mais pas que de ses poèmes. Alors, tu as dit, ce n'est pas de la poésie. C'est
non, mais.
On ne sait pas. On lit,
en fait, on s'en fiche. J'ai eu ça comme réaction. Ce n'est pas de la poésie, mais qu'est-ce qu'on s'en fiche? C'est un texte. Voilà, mais la poésie, c'est aussi des textes. Bref. Du coup, ouais, tant qu'à faire, le lien était tout trouvé tout à l'heure. C'est un texte qui va être dans la prochaine revue Violence. Violence avec un S. Voilà. Chaque année, chaque année, chaque année. Chaque année, des personnes dormant dans leur voiture, des Roms peut-être, il paraît qu'ils sont Roms. Moi, je n'en suis pas sûr, alors je dis des personnes, se font virer du parking des Chartreux à Lyon avant l'arrivée des touristes. Chaque année, on les vire. Ce on, ce n'est pas le ciel. Ce on, ce sont des personnes, encore des personnes. Des personnes qui prennent cette décision. D'autres qui donnent les ordres. Et d'autres personnes encore qui les exécutent. Chaque année, les lois s'appliquent au même moment et le discours est le même. C'est la loi. Mais la loi, ce n'est pas le ciel. Ce sont des personnes qui la fabriquent. Et la vote, et des personnes qui choisissent ou non de l'appliquer. Savez-vous qu'il est illégal de s'embrasser sur le quai d'une gare? Chaque année, l'eau des petites toilettes du parking est coupée. Et chaque année, dans le bus, j'entends « les Roms puent ». Ce ne sont pas des paroles tombées du ciel. Ce sont des paroles d'autres personnes, encore d'autres personnes, qui, je crois, ne comprennent pas la langue de la personne, qui ne sont pas très bons. Et ces airs roulés et ces savates noircies par la route les emmènent à l'Est. Alors ils disent Rome. Merci Sarkozy, je crois qu'on peut remercier Sarkozy pour l'emploi de ce terme à la va-vite. Moi j'en sais rien si c'est des Roms. Mais les commentateurs de bus, en disant tout haut des trucs dans le genre « encore un », fouillent le bus et cherchent des regards approbateurs. Eh bien, eux, ils savent. Et puis le grand moustachu du bus 31, il me l'a dit, il en a la preuve que c'est des Roms. C'est des Roms, parce qu'ils puent. Hier, j'ai mangé avec mon oncle. Chaque année, je mange avec mon oncle deux ou trois fois. On se croise chez ma grand-mère. Et chaque année, je m'engueule avec lui. Et chaque année, je redécouvre que le racisme crasse et ordinaire existe. Je ne dis pas que je fais aucune classification. Je suis en quelque sorte raciste, et tout le monde est raciste, sauf peut-être les aveugles qui n'entendent pas non plus, quoique. Oui, quand je vois un noir, il est noir. Et je remarque qu'il est noir. Et ça m'évoque pas la Suède, et ça peut peut-être me donner envie de manger éthiopien. Oui, dans ma tête, ça fait des liens que je ne contrôle pas. Mais mon oncle, lui, il fait pas que des classifications. Il les assume et il s'en gargarise. Il les utilise pour se sentir plus intégré. Mon oncle, il est très très con. Il dit « eux » pour se confondre dans le « on ». Il désire s'intégrer finalement. Et il paraît que c'est louable comme démarche. Petit extrait du repas. Tu dis que les Arabes sont sales. Mais ce que tu appelles arabe, c'est quoi? Et puis n'oublie pas que quand tu te torches le cul, tu t'étales de la merde et que tu restes avec au moins jusqu'au soir. Il me répond. Eux, ils se lavent les dents et le cul dans le même verre d'eau. Mon oncle n'a pas d'ironie, n'a aucune ironie. J'ai pris ses paroles au pied de la lettre, parce que je sais que sa lettre n'a que des pieds. Alors je me casse. Dommage, elle était super bonne cette ratatouille. Je me casse parce que quand même, je vais pas frapper mon oncle. C'est une personne lui aussi. D'ailleurs, il sent plutôt bon, même si son parfum me dégoûte. Je ne veux frapper personne. D'ailleurs, je ne l'ai jamais fait, sauf au rugby. Et je suis content de jamais l'avoir fait. Et surtout, je vais pas frapper quelqu'un devant ma grand-mère. Et je vais pas frapper quelqu'un devant sa mère. Chaque année, des personnes du quartier, du parking où s'installent les personnes que l'on dit Roms, sans avoir vraiment sans savoir vraiment s'ils sont roms, ramènent de l'eau, des vêtements, des poubelles, ramènent simplement leurs fraises, parfois une guitare, un peu à manger, un peu d'argent. Je trouve que c'est beau, et ça me fait dire qu'il faut des connards pour que la solidarité se révèle. Bon, quelquefois, ces personnes qui viennent pour aider, je les trouve un peu connes aussi. Quand ils disent que les roms vont peut-être nous jouer un petit peu de guitare ou nous faire des tours de magie. Non. Les personnes du parking des Chartreux ne vont pas faire apparaître un cheval qui galope sur des boules de cristal au son d'un solo démentiel de guitare sèche fabriqué avec de la récup de marché. Bon, quand même, ces personnes mettent leurs conneries à peu près du bon côté. Ils sont cons, tout comme moi. Ils trouvent que ça a quelque chose de gracieux d'aider les autres. Et tout comme moi, ils ont des préjugés. Mais je crois que tant qu'on essaye de travailler ses préjugés, qu'on accepte de se mettre devant sa connerie et ses réflexes, et puis tant qu'on discute, qu'on lit, peut-être, qu'on écoute, qu'on essaie de trouver le moyen de grandir un peu, je crois qu'on n'est pas si cons. Ou plutôt, je pense qu'on est tous des cons, mais que les cons qui font un petit peu d'efforts sont des cons sur la bonne voie. C'est un effort, mais une vie ne suffira pas. Savez-vous qu'il est interdit de s'embrasser sur le quai d'une gare ? Pour ici, j'ai coupé, c'était plus long, et sur mon papier, il n'y avait plus de place, mais du coup, ici, j'ai coupé. J'ai par exemple enlevé ma tante, qui, arrivée au dessert, a dit « Ceux qui dorment dehors, les pauvres, mais tout de même, je ne comprends pas, même eux, des fois, ils ne veulent pas de jambon. » J'ai enlevé la partie où j'écrivais que quand j'étais petit, pendant les repas de famille, avec mon frère, il y a 20 ans, on se prenait pour des gros rebelles quand on disait juste au milieu du repas « Nous, les Blancs, on n'est pas forcément les meilleurs. » J'ai enlevé la partie où ma vieille tante qui pue le parfum m'a mis une claque, en novembre 92, parce que je lui ai dit qu'elle était conne, ce jour-là. Et d'ailleurs, ça me fait penser que j'oublie toujours de lui dire que cette claque, je l'ai adorée, que je l'adore encore. Je m'en souviens très très bien, et je l'adore encore. Après cette claque, je me rappelle, je suis monté dans ma chambre, et avec les yeux trempés, j'ai joué à la console, à la Super Nintendo à l'époque, un jeu de foot. Et j'ai acheté un noir en ailier. 1m76, je l'ai acheté 6 millions d'euros. Mais ça valait le coup, parce qu'il courait super vite. Et j'ai marqué plein de buts avec lui. 9 buts en 3 matchs. Il s'appelait Traoré. À côté de son nom, c'était marqué 3 matchs, 9 buts. Ce matin, au réveil, mon premier café plein m'a dit « C'est pratique une famille comme ça, au moins on s'y sent facilement rebelle, différent et minoritaire. » Et voilà ce texte que j'avais écrit en pensant à mon frère, qui est mon seul allié dans les repas de famille. Et bon voilà, je m'étais dit, c'est un truc qu'on s'était dit ensemble, que sans lui, le Père Noël serait mort depuis encore plus longtemps.
Merci Fabien pour ce dernier texte.
Thank you.
Voilà, donc c'était en antidaté, le groupe de Fabien Drouet, notre invité du jour dans Patchworld.
C'est le groupe de Fabien Drouet, oui. Mais avec Malika. Bécouche, avec Malika, donc c'est un duo, c'est notre duo. Antidaté. Voilà, la chanson là, c'était Érico. Et il y en a d'autres, on a un CD, mais aussi vous pouvez écouter encore une fois sur Internet, sur SoundCloud, en tapant Antidaté, je crois que ça marche. Voilà, c'est avec des images en noir et blanc, vous verrez, de Costantino, quelqu'un que j'adore. Voilà, si vous avez envie d'écouter, ça vous ferait plaisir.
Voilà, j'ai pas vu passer ces deux heures quand même, on en a profité pour
heures.
L'été.
Bah, j'ai oublié mon l'été. Fils, il est mon fils qui m'attend chez moi.
Oulala, vas-y, file.
Oh, merde, mais il a 5 ans, merde.
Merci Fabien, très vite.
Merci à toi.